ce vendredi soir sur France 2 sera diffusée en deuxième partie de soirée la finale de The Artist, le télécrochet de service public qui devait être l'un des événements de la rentrée pour la deuxième chaîne. Résultat, mauvais départ, érosion des audiences et puis déprogrammation, mais une prise de risque à saluer dans une rentrée télé peu innovante reposant sur des marques connues du grand public avec en ligne de mire l'élection présidentielle. Y aura-t-il d'autres prises de risque et pour quel résultat? Qui sont les gagnants? Qui sont les perdants? C'est l'heure du premier bilan. On va le dresser avec deux spécialistes, tous deux journalistes médias dans la presse écrite. Bonjour Benjamin Ravier.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour le magazine Télé Loisirs. Avec vous et avec nous, François Rousseau, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste pour le magazine Télérama, désormais. Une question très ouverte pour commencer, cette rentrée télé, vous l'avez trouvée comment?
Moi, je l'ai trouvé assez plan-plan, on n'est pas vraiment bousculé. D'abord, c'est la première rentrée après un an et demi de confinement à répétition, où quand même la télé à la fois a explosé, mais a aussi été chamboulée. Et puis c'est une rentrée où il y a eu davantage de nouvelles formules que de créations. Donc il y a assez peu d'originalité. Et puis enfin, c'est une rentrée un peu délicate pour le média télé en lui-même, puisque la durée d'écoute, après les explosions du confinement, elle baisse. Et donc, depuis septembre 2019, la durée d'écoute, elle est tombée à 3h27, à 3h23 là, en septembre dernier.
C'est le niveau d'avant-confinement ou ça a encore baissé par rapport à 2018, par exemple?
Ça a encore baissé par rapport à 2018, mais en 2019, c'était 3h27.
Benjamin Ravier.
Pour moi, elle était prometteuse sur le papier avec des gros lancements, surtout sur TF1 avec le divertissement, Danse avec les stars qui revenait après 2 ans d'absence, une saison All-Star de The Voice et aussi une saison All-Star de Koh-Lanta qui était très attendue parce que Koh-Lanta a vraiment été le carton du confinement. Et finalement, à l'arrivée, c'est un peu décevant. On voit que les gens désertent un peu le petit écran, en fait. C'est ça, on en a mangé pendant un an et demi parce qu'on n'avait pas d'autre choix que de regarder la télé chez soi. Là, on voit que les Français éteignent un petit peu plus leur télé, quoi.
Et aussi, il a fait beau. Alors, vous parliez de Koh-Lanta, c'était mardi soir sur TF1. Denis Brognard face à un flambeau.
Et leur sentence est irrévocable.
Bim. La sentence, cette fois-ci, n'est peut-être pas irrévocable parce que tout change en télévision, mais elle est tombée. Une rediffusion d'Alex Hugo sur France 3 a battu un épisode inédit de Koh-Lanta. C'est une tendance, et même plus qu'une tendance, que la plupart des grosses marques de TF1 sont systématiquement battues par les fictions de France Télévisions. Samedi dernier, The Voice battu par Meurtre à Lille. Et vendredi, César Wagner d'une courte tête devant Danse avec les stars. François Rousseau, la fiction de France Télé écrase tout.
C'est des marques fortes, hein. C'est presque des programmes un peu refuge des fictions comme Alex Hugo ou comme Candice Renoir sont là depuis 2013-2014.
Mais on ne disait pas ça en 2013, ni en 2014, ni en 2018. C'est dingue ce qui est en train de se passer là.
Je pense que le public s'est attaché à ces personnages-là. Et puis, c'est des offres très différentes, des grands divertissements et des grands Barnum de TF1. Mais juste pour... vous avez raison, mais pour nuancer un peu, les grandes marques de TF1, en replay, elles cartonnent. Donc, il y a beaucoup de gens qui les consomment en rattrapage. Et puis, sur les cibles commerciales, surtout, elles continuent d'être très fortes.
Benjamin Rabier, donc les grandes marques de TF1, c'est pas fini pour elles?
Non, c'est pas fini parce que TF1 se positionne clairement sur les jeunes et la cible tant convoitée de la femme responsable des achats de moins de 50 ans. Et sur cette cible, ils sont imbattables. J'ai pris les chiffres pour vous. Danse avec les stars cette saison, c'est 36% sur les ménagères. Koh-Lanta, 38%. The Voice, 33%. Alex Hugo, 7%. Vous voyez, il y a vraiment une différence de public. En fait, le problème de TF1 aujourd'hui, c'est le vieillissement de la télévision, du public de la télévision. Donc forcément, ils vont sur ces marques, Alex Hugo, Candice Renoir, qui sont très identifiées, parce que je crois que c'est la saison 7 d'Alex Hugo, la saison 9 de Candice Renoir. Donc ils ont réussi à installer les marques. Et les jeunes, ils regardent beaucoup moins la télé en linéaire. Donc c'est pour ça que Koh-Lanta aujourd'hui, même si c'est en baisse sur un an, en replay, ça cartonne. Il faut à peu près 1 million de téléspectateurs en replay. Mais sur les cibles commerciales, c'est un carton de la rentrée, quoi.
Et l'explication est peut-être toute trouvée. J'allais vous demander votre avis, savoir pourquoi l'affaire Grégory, plutôt la fiction événement, une affaire française de TF1 consacrée à l'affaire Grégory, a eu un résultat en demi-teinte.
Déception, c'est une vraie déception, parce que TF1 visait 6 millions de téléspectateurs. Résultat, sur la moyenne des 6 épisodes, ils ont fait quasiment moitié moins, avec un peu plus de 3 millions de téléspectateurs. Donc ils se sont interrogés, se sont demandé si c'était pas la météo favorable aux terrasses qui avait fait que les gens avaient déserté le petit écran. Peut-être que sur Grégory, il y avait une lassitude. C'est une affaire qui n'est pas résolue, finalement.
Et puis, il y a eu beaucoup. Il y a eu une série Netflix, il y a eu d'autres épisodes.
Exactement.
D'autres projets.
Voilà, c'est une histoire à répétition. Et c'est clairement une déception pour TF1 parce qu'ils avaient misé très gros sur cette rentrée avec cette affiche, ce qui n'enlève rien à certaines qualités de la série, même si elle a aussi déçu pas mal de spécialistes.
Alors, je l'ai dit, The Voice a été battu par Meurtre A sur France Télévisions. Mais avant cela, The Voice a fait une victime sur le service public. C'est la nouvelle émission produite et présentée par Nagui, The Artist. Le concept du télécrochet de la 2, c'était faire concourir des auteurs et des compositeurs, plutôt des auteurs-compositeurs, déjà c'était nouveau, avec un vote du public gratuit. Ça aussi, c'était nouveau. Mais pourtant, dès le premier soir, Benjamin Rabier, faible audience, le mot est faible.
Ah bah c'est l'accident industriel de la rentrée télé, c'est-à-dire que c'était l'événement divertissement de France 2 et ça a fait flop dès la première. On était avec François à la conférence de rentrée de France 2 pour parler des divertissements, ils n'ont parlé que de ce programme, c'était vraiment leur grosse cartouche de la rentrée. Pour moi, il y a plusieurs raisons qui expliquent cet échec. Déjà, la communication de Nagui désastreuse avant le programme, il n'a parlé que de sa concurrence, que de la concurrence de The Voice. On ne savait même pas quel était le concept du programme avant la première.
Oui, je rappelle, il s'était attaqué, peut-être chez Anne-Elisabeth Lemoine, à The Voice, en disant que TF1 avait programmé le même jour que son émission The Voice, en sous-entendant que TF1 avait peur de France 2.
Oui, c'était une erreur stratégique de dire ça. Néanmoins, ce qu'il faut regarder, c'est le programme en lui-même qui a un peu bousculé, parce que finalement, on a regardé ça sans aucun repère. Des artistes auteurs, compositeurs, inconnus, face à un jury d'experts, mais dont ce jury, aucune personnalité. Le téléspectateur a regardé ça de façon un peu surprenante, mais la promesse était très belle. Je trouve que ça, c'était bien de vouloir mettre en lumière des talents. Mais le public a boudé dès le départ, et finalement, la promesse que le service public ait enfin son télécrochet a échoué. Résultat, l'émission a été rétrogradée le vendredi en deuxième partie de soirée. D'ailleurs, c'est la finale ce soir.
Ouais, je l'ai dit. Avant cela, fait très rare, après la deuxième émission, donc le producteur-animateur de l'émission, Nagui, est revenu sur son échec, dans une vidéo publiée sur Internet.
Mais j'ai le sentiment que vous êtes nombreux à ne pas l'avoir vue, cette deuxième émission. Alors, elle est en replay, vous pouvez la regarder. Vous pouvez aussi venir voir la semaine prochaine Gaëtan Roussel, Pascal Obispo, Black Eyed Peas, Benabar, tous ces artistes qui vont venir soutenir la création, l'originalité, le talent de jeunes artistes que vous ne connaissez pas et qui vont chanter des chansons que vous ne connaissez pas. Mais la nouveauté peut avoir du bon, je compte sur vous. On a besoin de vous et je vous assure qu'on s'est amélioré.
Il a la voix bien triste.
Bah, c'est un échec pour lui. Hein. Nagui, c'est quand même une énorme tête d'affiche. C'est l'homme de Taratata. Enfin, c'était un très gros pari.
Ce que je veux dire par là, c'est que personne ne l'obligeait à faire cette vidéo. Il aurait pu ne rien faire. C'était très étrange de l'entendre avec ce ton-là dire « venez nous voir ».
Après, c'était très bizarre parce que c'était vraiment l'événement de sa rentrée télé à lui. Et pendant les deux premières semaines, il réagissait pas aux audiences et tout. À un moment, il a été obligé de communiquer sur son programme. Lui, il l'attendait. Il pensait qu'il allait révolutionner le genre du télécrochet. Ça n'a pas marché. Et pour moi, une des erreurs de Nagui, c'est d'avoir voulu créer un télécrochet d'auteurs, compositeurs, interprètes, et sur le premier prime, que des reprises. Clairement, la promesse, elle n'était pas claire aux yeux des gens, c'était flou. Et d'ailleurs, c'est le problème de The Artist, c'est que le format a changé tous les samedis soirs. Tous les samedis soirs, il y avait une nouvelle mécanique. Et les gens, en fait, ceux qui étaient là au début, ils sont partis parce qu'ils n'y comprenaient plus rien.
Ce qui n'a pas changé et qui est une mécanique très rodée dans les émissions de Nagui, c'est l'accès, ça cartonne. On parle de la guerre de l'accès et de la guerre des chaînes d'infos. On marque une pause, on est avec Benjamin Rabier, Télé Loisirs, François Rousseau, Télérama, les tops et les flops de la rentrée, c'est dans quelques instants.
Philippe Vandel.
Le premier bilan de cette rentrée télévision, les tops et les flops, pour dire les choses trivialement, avec Benjamin Rabier de Télé Loisirs, François Rousseau de Télérama. Benjamin Rabier, on parlait de l'émission de Nagui en prime time, The Artist, qui fut une déception, mais en dépit de cette rentrée mouvementée, Nagui reste une valeur sûre, même très sûre, de France 2.
Bien sûr, honnêtement, Nagui, c'est la vache à lait de France 2 avec N'oubliez pas les paroles à 19h. Il permet à la chaîne d'engranger un max de rentrées publicitaires. C'est vraiment le créneau le plus rentable de la chaîne. N'oubliez pas les paroles depuis la rentrée bac régulièrement, Demain nous appartient sur TF1. Donc non, pour le coup, il n'y a aucune inquiétude sur Nagui à France 2.
Et il ramène du monde devant le 20h d'Anne-Sophie Lapix. Alors, on est dans aux alentours de l'accès. On va parler des soirées, on va parler de la case stratégique de ce 19h. La guerre des talk shows, c'était la rentrée également pour Quotidien. C'est à vous et touche pas à mon poste.
Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50.
Bonsoir et bienvenue dans Quotidien. Nous sommes le jeudi 14 octobre.
Merci d'être avec nous, les chéris.
Benjamin Rabier, le véritable changement, il est du côté de C'est à vous sur France 5 qui est prolongé désormais jusqu'à 21h. Côté chroniqueur, on note les recrutements de Mathieu Béliard et de Mohamed Bouafsi. Changement payant.
Ouais, Paris réussi, je trouve que c'est vraiment le beau succès de ce début de saison. C'était un pari vraiment de prolonger jusqu'à 20h50 parce que évidemment en plus avec la concurrence vraiment c'est à 20h qu'arrive la concurrence de Quotidien et de Touche pas à mon poste. Et vraiment là ils ont dynamisé la case du 20h, c'est-à-dire que Claire Chazal avec Passage des Arts, elle était à peu près à 400 000, là ils arrivent à faire des pointes à 800 000. C'est quand même en un mois, c'est quand même assez incroyable.
Ah oui, doubler la case en un mois, bravo.
Et surtout je trouve que les nouveaux arrivants, Mohamed Bouafsi et Mathieu Béliard, ça donne un peu de jeunesse à cette bande et un nouveau dynamisme. Vraiment, je trouve que c'est une réussite.
Je souris parce que je pense à mon ancien patron Pierre Lescure.
qui reste un pilier de l'émission.
Qui reste un pilier, mais je trouve que ça, ouais, c'est une nouvelle énergie, je trouve, et ça prend en fait.
Je suis d'accord. La mayonnaise prend. Qui est le premier en moyenne sur les deux tranches horaires à 19h et à 20h, François Rousseau?
À 19h, c'est à vous, avec Anne-Elisabeth Lemoine. Et puis à partir de 20h, c'est Yann Barthès avec Quotidien, qui a fait d'ailleurs sa meilleure semaine la semaine dernière. Il était à 1,6 million de téléspectateurs en moyenne. Voilà. Après, pour tout ce petit monde, si je puis dire, il faut, je pense, attendre l'heure d'hiver, parce que c'est là que le public va arriver en masse. Ils vont gagner quelques centaines de milliers de téléspectateurs, parce que Quotidien, ils étaient pas loin des 2 millions en fin de saison l'année dernière. Mais voilà, ils font tous des rentrées plutôt calmes, sans bad buzz, sauf peut-être du côté de C8 chez Cyril Hanouna, où il se passe plus de choses et où il y a des débats.
Il se passe des choses aussi volontairement, parce que Touche pas à mon poste, qui était une émission d'observation de la télévision, devient de plus en plus, s'empare de plus en plus de sujets sociétaux.
Il a rebattu les cartes de son émission, il s'empare de thèmes politiques, puisqu'il dit lui-même qu'il voudrait être un médiateur pendant la campagne présidentielle avec le public. Et c'est vrai qu'on parle quasiment plus médias dans cette émission qui au départ était axée sur les médias, et il s'empare de sujets d'actualité, de débats de société, sur la laïcité, sur des faits divers, sur toute l'actualité du quotidien qu'il revisite le soir en débattant, en essayant d'avoir les acteurs. Donc c'est un changement d'ADN de l'émission.
Et est-ce que ça marche? Est-ce que le public suit? On a vu il y a deux jours, il y avait ce jeune homosexuel qui a manqué se faire lyncher par 10 personnes qui était sur le plateau de manière anonyme.
Oui, c'est en ça qu'il essaye d'être au plus près du show de l'actualité. Show, c'est H-A-U-D, mais aussi show S-H-O-W, parce que avec la bande de chroniqueurs, avec les invités, parfois ça déborde un peu. Il y a une promesse de direct.
Et ça déborde, c'est aussi votre jugement?
Ouais, c'est du Cyril Hanouna. Et pour moi, sa plus grande réussite, c'est d'avoir fait d'un talk show média, un talk show de société. C'est quand même incroyable que le public de TPMP qui regardait l'émission pour de la télé soit resté pour parler de laïcité, d'homophobie.
Ma question.
C'est quand même incroyable que les audiences n'aient pas bougé. Parce qu'avant, on parlait des fanzous qui étaient fans d'Hanouna, de télé. Et maintenant, il arrive à faire des débats de société. Le public bouge pas. Les audiences de ce début de saison sont vraiment bonnes. L'année dernière, c'était un peu en dessous. Là, il a réussi à rebooster son émission. Vraiment, c'est surprenant, je crois.
Et peut-être qu'il va piquer du monde aux chaînes de télé, ce qui nous amène à la guerre des chaînes d'info, le match à 4 que se livrent BFM, CNews, LCI, France Info. Et l'événement médiatique de cette rentrée, ça se passait là-bas. C'était un débat politique marqué par la radicalité.
Vous êtes en danger, à mes yeux, vous êtes en danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France, vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça. Vous êtes un homme qui professait une vision de la virilité extrêmement curieuse, extrêmement violente. C'est vous qui écrivez que les femmes sont le butin des hommes.
Vous estimez que je contamine le débat public, c'est-à-dire que je suis comme un virus qui contamine. C'est votre conception de la démocratie, mais ça ne m'étonne pas, parce que dans votre camp, depuis deux siècles, on ne débat pas, on guillotine.
On a reconnu le débat Mélenchon-Zemmour sur BFM TV. François Rousseau, BFM a su créer l'événement. C'est amené à se reproduire ou c'est un one-shot?
À mon avis, ça se reproduira, parce que BFM a besoin de faire des coups. Le paysage des chaînes info a été dynamité depuis 6 mois, depuis le printemps, par la percée de CNews, qui depuis une douzaine de fois au moins s'est hissée devant BFM TV, qui est toujours leader, mais qui était surtout depuis 10 ans la leader incontestée. La dernière fois que CNews, en réalité l'ex-Itélé, avait battu BFM Télé, c'était en 2011. Donc ils ont toujours été dans un confort d'audience absolu. Et là, BFM veut à la fois évidemment marquer la présidentielle, comme toutes les chaînes d'info veulent marquer de leur empreinte la présidentielle, mais surtout ils ont besoin de faire des coups. Et donc il y aura sans doute d'autres affiches comme celle-là.
Et on note que le prochain invité d'Élysée 2022 sur France 2, présenté par Thomas Soto et Léa Salamé, sera Éric Zemmour. La chaîne d'info qui a fait le plus de modifications cette rentrée, c'est LCI, avec un nouveau plateau Plateau, le recrutement de Ruth El-Krieff venu de BFM TV, le recrutement de Paul Laroutourouf venu de l'émission Quotidien, une nouvelle matinale, beaucoup d'investissements. Est-ce qu'ils ont bien été payés en retour, François Rousseau ?
Il y a une dynamique du côté de LCI. Néanmoins, la chaîne reste loin derrière les autres, loin derrière BFM, derrière CNews. Il y a une petite dynamique, notamment le soir avec Éric Brunet, ce qui a amené CNews cette semaine à revoir ses soirées et à mettre en face d'Éric Brunet sur LCI une nouvelle émission sur CNews avec Thomas Lecartier. Donc ça vous montre bien la guerre des chaînes info, qui est un sujet qu'on traite dans Télérama la semaine prochaine, puisqu'on consacre un dossier à l'influence des chaînes d'information dans le paysage audiovisuel pour les 6 mois à venir et pour les 6 mois de campagne. Voilà, LCI, vous savez, il y a quelque chose qui m'a marqué à la conférence de presse de rentrée toutes les chaînes info, c'est que chaque patron a dit « Attention, on ne veut plus de polémiques sur nos antennes, on va se recentrer, plus d'images, plus d'infos, etc. » Il y a un positionnement très noble comme ça, très sage, pour dire que la campagne doit être un moment de rassemblement. En réalité, quand vous regardez les chaînes d'info depuis un mois, au-delà de la Zemmour mania qui donne un peu le tournis, vous constatez surtout qu'il y a peu de reportages et de valeur ajoutée sur le reportage, mais il y a beaucoup de plateaux de débats et aussi beaucoup de bavardages.
Benjamin Rabier, vous êtes d'accord avec ça? Ce sera le mot de la fin.
Totalement, je suis totalement d'accord. Moi, je dirais juste que le match à 4 se joue vraiment à 2 entre CNews et BFM et que LCI et France Info sont largués. LCI fait quand même 2 fois moins d'audience que CNews et presque 3 fois moins que BFM au mois de septembre. Donc même si
CNews... On disait ça de CNews il y a 2 ans. Hein.
Bien sûr, mais là...
Vous pensez que c'est figé pour la saison?
C'est irrattrapable en 6 mois pour moi.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, François Rousseau. On peut vous lire dans Télérama, Benjamin Rabier, on vous lit dans Télé Loisirs. Et dans le prochain numéro, vous reviendrez justement sur les tops et les flops de la rentrée. François Rousseau, vous l'avez dit, prochaine enquête consacrée aux chaînes d'info. Merci d'avoir été avec nous en direct. Dans un